Laure Adler, l'heure bleue sur France Inter.
Ce soir, la folie Dostoïevski numéro 3 dans l'heure bleue. Avant-hier, c'était André Markowitz. Hier, c'était Julia Kristeva. Et ce soir, c'est Sylvain Creusevaux. Comme je vous l'ai dit dès lundi dernier, cette émission et cette série ont été préparées en amont depuis des semaines, mais nous avons décidé de maintenir la diffusion de cette recherche Dostoïevski, tant nous pensions que l'œuvre Dostoïevski pouvait nous aider à mettre en perspective la guerre qui se déroule en ce moment même en Ukraine. Chaque soir, nous demandons à chaque invité de nous dire dans quelle situation, dans quel état il se trouve par rapport à cette guerre en Ukraine. Sylvain Creusevaux, comment ressentez-vous cette guerre en Ukraine aujourd'hui ? C'est la première fois que ça vous arrive, la guerre.
Oui, en tout cas, c'est la première fois. À cette distance, vous voulez dire, quoi, j'imagine, puisque en fait, j'ai jamais pensé que, sous prétexte que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de guerre sur le sol européen. Enfin, et d'abord, ce n'est pas vrai, puisque on a connu la guerre en Bosnie. Mais par contre, c'est vrai que le premier effet de celle-ci, avec cette décision de Poutine, cette invasion de l'Ukraine, c'est quand même quelque chose qu'on sentait, comment dire, qui se construisait, quoi, ces dernières années. C'est pas quelque chose qui est étonnant, on va dire. Et je suis toujours un peu surpris quand j'entends depuis quelques jours, à droite, à gauche ou dans les médias, le fait que il y aurait quelque chose de la folie de Poutine ou une surprise. Enfin, je veux dire, ce sont pas des invasions qu'on invente en deux jours. Ça prend des années de préparer une armée à un tel projet. Et on a vu, en fait, ces 10 dernières années, un régime russe à travers Poutine qui, et là on rejoint Dostoïevski, qui ressemblait de plus en plus à un régime tsariste. Je pense notamment au régime qui concerne directement Dostoïevski de Nicolas Ier, où effectivement la liberté de penser, la liberté d'écrire, de presse est muselée complètement, où on assassine des journalistes, où on les envoie en prison. Et ça, c'est que ce soit à l'époque de Dostoïevski dans les années 1840, ou que ce soit aujourd'hui, il y a des analogies absolument frappantes entre ces régimes d'autocrates. Et c'est pas quelque chose qui nous explose à la figure comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui se prépare. Et il y a dans tout le monde entier, en fait, dans la carte géopolitique du monde, les autocraties ont, au fur et à mesure des 20 dernières années, préparé quelque chose qui est de l'ordre de que les démocraties occidentales ou libérales. Et il y en a assez, quoi. Et donc il y a vraiment ce qui est non pas nouveau, mais qui est frappant là, c'est que il est tout à fait possible que ce soit quelque chose qui ouvre une nouvelle séquence historique absolument terrible de confrontation mondiale entre des régimes qui n'arrivent plus à négocier ensemble leur coexistence. Et par rapport à ça, Dostoïevski, il l'a pris dans son corps, l'autocratie d'un régime. Donc c'est quelque chose qui pour moi est nouveau. Mais pas étonnant, et le théâtre qu'on fabrique, la généalogie des œuvres que nous traversions depuis évidemment l'œuvre du XXe siècle via les avant-gardes russes, via le théâtre de Bertolt Brecht, via le théâtre après d'Edouard Bond ou de Samuel Beckett, ce sont des généalogies qui nous ont fait appréhender la guerre à travers le théâtre. Et maintenant, il va falloir qu'on se positionne dans la vie. Et ce que je voulais vous dire, Laure, et aux éditeurs et à tout le monde, c'est que des pourparlers ont commencé entre Kiev et la Russie et le régime russe. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais dans le rapport de force et le risque d'escalade qui peut enflammer les choses, nous devons, les peuples d'Europe, de l'Ouest et les peuples doivent se faire entendre massivement, et que toute personne qui puisse essayer de diffuser de l'information qui soit pas désinformée, qui soit pas erronée vers les citoyens russes, vers le peuple russe, les habitants russes, parce que on a du mal à imaginer un retour en arrière, on a du mal à imaginer comment ces régimes vont se remettre à la table des négociations. Et donc il y a les peuples qui doivent faire pression Je sais que des choses en France, notamment via dans le monde de la culture et des théâtres, est en train d'organiser des choses. Mais il faut que ça soit visible. Il faut que les peuples se dressent, se lèvent et s'expriment massivement contre le régime russe, pour le soutien de l'Ukraine, mais surtout pour essayer de retenir en fait une marche vers le pire qui serait particulièrement désastreuse, catastrophique.
L'heure bleue, c'est Dostoïevski, la folie Dostoïevski, à l'heure de la guerre en Ukraine. On commence maintenant.
L'heure bleue sur France Inter.
Et si Schneider lui-même était, à ce moment, venu de Suisse voir son ancien élève et son patient, alors, se souvenant de l'état dans lequel se trouvait parfois le prince au cours de sa première année de cure en Suisse, il n'aurait pu faire qu'un geste d'impuissance et dire comme autrefois, idiot.
Toute cette semaine, l'heure bleue se veut dostoïevskienne. Depuis lundi, nous vous emmenons dans un voyage à travers plusieurs textes de Fiodor Dostoïevski, grâce au choix du traducteur André Markowitz. Le lecteur, c'est Arthur H. Ainsi, vous avez pu entendre sa lecture lundi des Carnets du sous-sol, un extrait, mardi de Crime et châtiment. Ce soir, ce sera l'idiot. Vous avez peut-être entendu André Markowitz parler de sa traduction pendant 10 ans de l'œuvre complète de Fiodor Dostoïevski. Hier, Julia Kristeva s'exprimer sur le féminisme de Dostoïevski et sur le côté prophète et visionnaire de l'œuvre. Ce soir, nous avons la chance d'avoir le metteur en scène Sylvain Creusevaux qui va s'exprimer à propos de la folie Dostoïevski et vous entendrez la lecture par Arthur H. d'un extrait de l'idiot. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec cette magnifique chanson de Feu Chatterton, avant qu'il n'y ait le monde.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux. Nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid. Mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Thank you. va pas plus vite qu'avant. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez la série La Folie Dostoïevski numéro 3. Maintenant, place à la lecture. Ce soir, ça sera un extrait du livre « L'idiot » par Arthur H. Le livre « L'idiot » est paru d'abord en feuilleton au Messager russe entre 1868 et 1869. C'est un roman épais, 1200 pages, à la structure complexe. André Markowitz a choisi la toute fin du roman. C'est le moment où Nastassia Philippovna, qui devait épouser le prince Mishkin, s'est enfuie au dernier moment pour se précipiter chez Rogojin, dont elle sait qu'il la tuera. Mishkin, bouleversé, épuisé, se présente chez lui. Place à la lecture de L'Idiot, donc, par Arthur H.
Le prince fit un deuxième pas en avant, un autre encore, et s'arrêta. Il se tenait là, il scruta, une minute ou deux. Les deux hommes, tout le temps qu'ils furent devant le lit, ne prononcèrent pas un seul mot. Le cœur du prince battait si fort qu'il lui semblait qu'on l'entendait dans la pièce, dans le silence mort de cette pièce. Mais ses yeux s'étaient faits à la pénombre. Maintenant, il pouvait distinguer tout le lit. Dedans, il y avait quelqu'un qui dormait, d'un sommeil parfaitement immobile. On n'entendait pas le moindre froissement. Pas le moindre souffle. Un drap blanc couvrait la tête du dormeur, mais ses membres semblaient comme vaguement se dessiner. On voyait seulement au relief qu'un être humain était couché ici de tout son long. Autour, en désordre, sur le lit, au pied du lit, au chevet, dans un fauteuil et même par terre, on voyait éparpillés des vêtements, une riche robe de soie blanche, des fleurs, des rubans. Sur un petit guéridon au chevet du lit, brillaient des diamants ôtés et dispersés. Au pied du lit, des dentelles froissées, et puis, sur la tache blanche que faisaient des dentelles, on devinait, sortant de sous le drap, juste le bout d'un pied nu. Il paraissait comme sculpté dans le marbre. Il était immobile, terriblement. Le prince regardait et sentait que plus il regardait, plus dans la pièce, tout devenait mort et silencieux. Soudain, une mouche réveillée se mit à bourdonner. Elle passa sur le lit et se posa sur le chevet. Le prince tressaillit. « Sortons !» fit Rogojin en lui touchant le bras. Ils sortirent, se rassirent sur les mêmes chaises, à nouveau face à face. Le prince tremblait de plus en plus fort et gardait son regard interrogateur sur le visage de Rogojin. « Tu trembles, là, je vois ça !»« Lev Nikolaevitch !» dit enfin Rogojin. C'est comme quand t'as cette maladie, ou presque. Tu te rappelles? Ça t'est venu à Moscou. Ou comme il y a eu avant la crise. Je me demande bien ce que je veux faire avec toi. Le prince essayait de l'entendre, tendait toutes ses forces pour comprendre, l'interrogeant du regard. C'est toi? Murmura-t-il enfin, désignant le rideau d'un signe de tête. Moi? Oui. Murmura Rogojin. Et il baissa la tête. Ils se turent 5 bonnes minutes. « Parce que, poursuivit soudain Rogojin, comme s'il ne s'était pas interrompu. Parce que s'il y a ta maladie, la crise et le cri, maintenant, alors je parie de la rue ou de la cour, quelqu'un pourra l'entendre. Ils vont avoir l'idée qu'il y a des gens qui passent la nuit. Ils vont cogner, ils vont entrer. Parce qu'ils se disent tous que je suis pas là. J'ai pas allumé de bougie, qu'on voie rien de la rue ou de la cour. Parce que quand je suis pas là et que j'emporte les clés, il y a personne qui vient sans moi, même pour faire le ménage. 3 jours, 4 même. C'est ça que j'ai dit. Alors voilà, qu'on sache pas qu'on va passer la nuit. Attends, dit le prince. Tout à l'heure, j'ai demandé au concierge et à la petite vieille si Nastassia Philipovna n'avait pas passé la nuit ici. Ils sont déjà au courant, donc. Je sais que t'as demandé. J'ai dit à la Pafnoutievna que Nastassia Philipovna était passée hier et qu'elle était repartie à Pavlovsk. Elle avait juste passé 10 minutes chez moi. Ils sont pas au courant qu'elle a passé la nuit, personne. Hier, on est entré comme ça, pas de bruit du tout, comme aujourd'hui avec toi. Je m'étais déjà dit en chemin qu'elle voudrait pas entrer sans bruit, que si. Elle chuchote, elle passe sur la pointe des pieds, elle soulève même un peu sa robe pour qu'elle fasse pas de bruit. Elle la tient dans ses mains et moi dans l'escalier, elle me menace du doigt. De toi toujours qu'elle avait peur. Dans le train, elle était complètement folle, toujours de peur. C'est elle qui a voulu venir chez moi. Moi au début, je pensais l'amener chez la maîtresse d'école, tu parles. Là-bas, elle me dit, ils m'auraient retrouvé à l'aube. Et toi, tu vas me cacher. Et demain, à la première heure, Moscou. Et après, à Orel, je sais pas où qu'elle voulait. Et elle se couchait. Elle disait toujours qu'on irait à Orel. Attends, mais... Et toi, maintenant, Parfionne, comment tu veux? Bah justement, tu me fais peur, que tu trompes toujours. Cette nuit, on la passera ensemble, ici. De lit, à part l'autre, il n'y en a pas. Alors je me suis dit, les 2 coussins sur le divan, on peut les prendre, on les met à côté, là, devant le rideau, pour toi, et puis pour moi, qu'on soit ensemble. Parce que s'ils viennent, ils vont regarder ou fouiller, et là, tout de suite, ils la voient, ils la prennent, ils me posent des questions. Je leur dis que c'est moi, ils me prennent tout de suite, alors qu'elle reste là près de nous, plutôt près de toi, près de moi. Oui, oui, confirma le prince avec chaleur. Donc, on n'avoue rien, on la laisse pas emporter. Pour rien au monde, trancha le prince. Pour rien au monde. Moi aussi, j'ai décidé pour rien au monde, mon gars, on la donne à personne. Cette nuit, on la passe sans bruit. Aujourd'hui, je suis juste sorti 1 heure le matin, sinon j'ai toujours été avec elle. Et puis le soir, je suis allé te chercher. J'ai peur aussi, seulement il fait lourd. Ça fera de l'odeur. Tu la sens, l'odeur? Ou non? Peut-être, je sens. Je ne sais pas. Le matin, sans doute, l'odeur sera là. Je l'ai couverte avec une toile cirée. Une bonne. Une toile américaine. Et puis, au-dessus de la toile, un drap et 4 flacons de liquide de Djanov, ouverts. Ils restent là. C'est comme l'autre? À Moscou? C'est parce que l'odeur, vieux frère, et elle, elle est là maintenant. Le matin, quand on ne verra plus, regarde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus te lever? Demanda Rogojin avec un étonnement craintif, voyant que le prince tremblait si fort qu'il ne pouvait pas se mettre debout. Les jambes qui se figent, balbutia le prince. C'est la peur, je crois. La peur va passer, je vais me lever. Attends. Pendant ce temps-là, moi, je nous fais notre lit, que tu te couches au moins. Et moi avec toi. Et on écoute. Parce que je sais pas encore, mon gars. Je sais pas encore tout, mon gars. Maintenant, alors, à toi aussi, je te dis à l'avance, que tu sois au courant, toi aussi, à l'avance. En marmonnant ces mots obscurs, Rogojin commença à préparer les lits. On voyait que ces lits, il y avait pensé peut-être dès le matin. La nuit dernière, il l'avait passé sur le divan. Mais 2 personnes ne pouvaient pas tenir côte à côte sur le divan, et lui, il voulait absolument faire les lits côte à côte. Voilà pourquoi il traînait à présent, au prix de grands efforts, à travers toute la pièce jusqu'à l'entrée derrière les rideaux, des coussins de tailles différentes pris sur les 2 divans. Le lit s'arrangea tant bien que mal. Rogojin s'approcha du prince, lui prit la main dans un geste tendre et exalté. Le fit se lever et l'amena vers le lit. Mais il s'avéra que le prince pouvait marcher tout seul. Donc, la peur passait. Et pourtant, malgré tout, il continuait de trembler. « Parce que, vieux frère, » commença brusquement Rogojin, après avoir couché le prince sur le coussin gauche, le meilleur, et tout en s'étendant lui-même sur le droit, sans se déshabiller, les 2 mains croisées sous la nuque, « il fait chaud maintenant. Et on sait ce que c'est, l'odeur. Les fenêtres, j'ai peur de les ouvrir. Ma mère, sinon, elle a des pots de fleurs. Ces fleurs-là, une odeur si belle qu'elles ont. Je pensais les prendre. Mais la Pavnoutievna, elle va deviner. Elle est curieuse. Elle est curieuse, approuva le prince. Ou on achète alors des bouquets et je la couvre de fleurs. Mais je me dis, ça fera peine, l'ami, toute sous les fleurs. Écoute, demanda le prince comme s'il s'embrouillait, comme s'il cherchait ce qu'il fallait précisément qu'il lui demande et oubliait tout de suite. Écoute, dis-moi, c'est avec quoi ? Un couteau ? Avec l'autre, là ? Ouais. Attends encore. Je vais encore te demander, Parfionne. Je vais encore te demander beaucoup de choses sur tout. Mais toi, dis-moi plutôt d'abord pour le commencement, que je sache. Tu voulais la tuer avant mon mariage ? Avant l'hôtel, sur le parvis d'un coup de couteau ? Tu voulais ? Je sais pas si je voulais, répondit sèchement Rogojin, comme s'il s'étonnait même un peu de la question et ne la comprenait pas trop. Le couteau, tu l'avais déjà apporté à Pavlovsk ? Jamais. Le couteau, je peux juste te dire une chose, Lev Nikolaïvitch, ajouta-t-il après un temps de silence. Je l'ai pris ce matin dans le tiroir fermé, parce que tout s'est passé ce matin, sur les 4 heures. Je l'avais toujours gardé dans un bouquin. Et voilà ce qui m'étonne encore. Le couteau, il est entré, je te jure, bien 5 ou même 10 centimètres, juste sous le sein gauche. Et le sang ? Ça a juste fait une demi-cuillère à soupe sur sa chemise. Pas plus. C'est, fit le prince se surélevant soudain dans une grande agitation. C'est, je sais ce que c'est. J'ai lu. Ça s'appelle une hémorragie interne. Parfois, il n'a même pas une goutte. Si le coup tombe droit dans le cœur. Eh, t'entends ? Interrompit très vite Rogojin et il s'assit effrayé sur sa couchette. T'entends ? Non ? Répondit le prince d'une voix aussi précipitée et pleine de frayeur en fixant Rogojin. C'est elle. T'entends ? Dans la salle ? Ils l'écoutèrent tous les deux. J'entends, chuchota fermement le prince. C'est elle ? Oui. Je ferme la porte à clé ? Oui. La porte fut fermée et les deux hommes se recouchèrent. Il y eut un long silence. Ah oui ? Chuchota soudain le prince avec le même chuchotement hâtif et agité, comme s'il avait à nouveau rattrapé sa pensée et s'il avait une peur terrible de la reperdre. Il avait même bondi sur son lit. « Oui, je voulais. Ces cartes, les cartes. Tu jouais aux cartes avec elle ?» On m'a dit. « Oui, » dit Rogojin, après un temps de silence. « Où elles sont, les cartes ?»« Ici, elles sont. » prononça Rogojin après un temps de silence encore plus long. « Voilà. » Il sortit de sa poche un jeu de cartes usagé, enveloppé dans du papier, et le tendit au prince. Celui-ci le prit, mais comme avec stupeur. Une sensation nouvelle, triste, sans joie, lui serra le cœur. Il comprit soudain qu'à cette minute et depuis longtemps déjà, il parlait toujours d'autre chose que ce dont il devait parler, qu'il faisait toujours autre chose que ce qu'il devait faire, et que ces cartes-là, qu'il tenait dans les mains et qu'il l'avait tellement rempli de joie, maintenant elle ne pouvait plus rien du tout. Il se leva. Il eut un geste d'impuissance. Rogojin était allongé, immobile, comme s'il n'avait pas vu, pas entendu ce mouvement. Mais ses yeux luisaient très fort dans le noir. Ils étaient absolument ouverts et immobiles. Le prince s'assit sur une chaise et le fixa avec frayeur. Il se passa environ une demi-heure. Soudain, Rogojin se mit à crier et à rire d'une voix frénétique et puissante, comme s'il avait oublié qu'il ne fallait parler qu'en chuchotant. « L'officier, l'officier, tu te rappelles ? L'officier, là, à la musique, comment elle l'a ? À la cravache, tu te rappelles ? Et le cadet qui accourait !» Le prince bondit de sa chaise, pris d'une nouvelle frayeur. Quand Rogojin se tut, et il se tut soudain, le prince se pencha doucement vers lui. Il s'assit auprès de lui, le cœur battant à tout rompre, respirant lourdement. Il l'observa. Rogojin ne tournait pas la tête vers lui. C'était même comme s'il l'avait oublié. Le prince regardait et attendait. Le temps passait. Le matin s'annonçait. Rogojin, rarement et soudain, se mettait parfois à marmonner d'une voix haute, violente. Des mots sans suite. Il commençait à crier ou à rire. Le prince tendait alors vers lui sa main tremblante. Il lui touchait doucement la tête, les cheveux, et il les caressait, et il lui caressait les joues. Il ne pouvait rien faire de plus. Lui-même, il s'était remis à trembler, et à nouveau ses jambes s'étaient comme paralysées. Une sorte de sensation entièrement nouvelle lui torturait le cœur d'une angoisse infinie. Entre-temps, le jour s'était levé. Il s'allongea enfin sur la couchette, comme épuisé complètement, désespéré, et pressa son visage sur le visage blême et immobile de Rogojin. Les larmes coulaient de ses yeux sur les joues de Rogojin, mais lui-même, peut-être, à ce moment, il ne sentait plus rien de ses propres larmes, et il n'en avait plus aucune conscience. Toujours est-il qu'au moment où, plusieurs heures plus tard, la porte s'ouvrit et où des gens purent rentrer, ils découvrirent l'assassin complètement inconscient, dévoré par la fièvre. Le prince était assis auprès de lui, immobile, sur la couchette, et doucement, à chaque fois qu'éclatait le délire ou les cris du malade, il se hâtait de passer sa main tremblante sur ses cheveux ou sur ses joues, comme s'il le caressait, s'il l'apaisait. Mais il ne comprenait déjà plus rien de ce qu'on lui demandait. Il ne reconnaissait plus ceux qui étaient entrés et l'entouraient. Et si Schneider lui-même était, à ce moment, venu de Suisse voir son ancien élève et son patient, alors, se souvenant de l'état dans lequel se trouvait parfois le prince au cours de sa première année de cure en Suisse, il n'aurait pu faire qu'un geste d'impuissance et dire comme autrefois « Idiot ».
Dating all this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver food snake while I'm fleeing town, and I can't get around. Surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. A sundown father gods, we were born, born to fail. I want you to hold me perpendicularly. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez la série spéciale intitulée La Folie Dostoïevski. Vous venez d'entendre Asaf Avidan, Lost Horse. Et ce soir, pour cette troisième émission consacrée à Dostoïevski, nous avons la chance d'avoir Sylvain Creusevaux. Alors Creusevaux, Sylvain, je commence par votre nom, puis par votre prénom. Parce que quand avez-vous commencé à tomber dans la marmite Dostoïevski? À quel âge?
J'ai commencé dans l'adolescence. On le supporte jusqu'à 40, 50 ans, quoi. Après, on ne le supporte plus parce que, comme il dit lui-même, on approche Dostoïevski quand on est jeune par les idées, souvent par le biais, justement, du caractère prophétique, de l'œuvre, de la projection dans le XXe siècle qu'il a produite à la fin du XIXe, par les espèces de ténèbres politiques dans lesquelles il se meut et qu'il nous donne. Et donc, c'est avec les jeunes gens, avec les jeunes personnages de ses romans, on est attiré par le monde des idées, par la lutte des idées, par la lutte des corps dans les sociétés qui étaient à ce moment-là en train de construire le libéralisme, construire le socialisme. Donc, on est dans des époques comme ça qui s'ouvrent et ça plaît beaucoup à la jeunesse. Quand on, nous-mêmes, dans notre époque, quand on le lit, on veut ferrailler avec tout ça. Mais comme il dit lui-même, Dostoïevski, les idées, c'est ennuyeux. Et donc, quand on arrive, quand on prend un peu de bouteille, quand on prend un peu d'âge, et que c'est, il y a d'autres choses. Alors, par exemple, Markowitz, il pourrait très bien dire, je le vois déjà, j'ai pas encore, mais je sens, je vais être très attentif. Mais je suis sûr qu'il a dû quelque chose que dire, voilà, jusqu'à 50 ans, avec Dostoïevski, puis après avec Tchekhov. Parce que à un moment donné, c'est quelque chose comme ça. Dans, oui, on est attiré par tout d'un coup voir ce qu'il y a entre les gens et non pas ce que les gens produisent de manière automorphe. Automorphe, c'est-à-dire quand on essaye, quand on veut se dresser comme ça contre le monde, quand on veut être une catastrophe naturelle contre le monde, alors on se dresse, on essaie de se dresser par soi-même, et puis à un moment donné, on produit des discours, on produit des étincelles, on veut, et puis à un moment donné, on préfère regarder ce qu'il y a entre les gens. Et d'ailleurs, quand vous regardez souvent le parcours des metteurs en scène ou des metteuses en scène de théâtre, c'est assez intéressant de voir à quoi ils s'attachent selon les âges de leur vie. Et puis voilà. Donc oui, je vois bien. Donc quand on est jeune, on le prend de plein fouet, Dostoïevski.
Mais vous avez quel âge aujourd'hui? Rassurez-moi.
Alors, non, mais Laure, c'est une...
Parce que vous êtes toujours dans Dostoïevski.
J'ai eu 40 ans il y a quelques
jours. Bon, il vous reste 10 ans encore avec lui.
Moi, ça y est, c'est simple, j'ai passé 5-6 ans constamment avec lui, là, c'est-à-dire à peu près la durée de son séjour au bagne. D'ailleurs, j'ai vécu ma fréquentation de l'auteur exactement comme si j'avais été... puni. Je me suis auto-puni. En fait, je me suis à moi-même administré une peine de prison. Et mon geôlier, c'était Dostoïevski. Et pourquoi je l'ai fait? Je vais vous dire la vérité. Je l'ai fait parce que juste avant ce travail-là, j'ai travaillé sur Marx. Et vous savez, au théâtre, il y a une très belle chose horrible, qui est qu'il y a des répétitions qui se passent magnifiquement et qui se terminent mal. Et c'est ce paradoxe entre une répétition qui est magnifique et qui se termine mal a fait que j'étais très malheureux pendant le Capital. Et je crois que je me suis enfermé avec lui au bagne. J'ai vraiment vécu 5-6 ans avec lui, mais exactement comme la parabole du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, entre le grand inquisiteur et Jésus. Enfin, c'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression de construire un dialogue en prison avec lui. En prison, parce que travailler Dostoïevski, c'est vraiment te faire travailler. Je veux dire, vous voyez, comme c'est-à-dire que tu construis une forme, enfin donc tu la sculptes, tu essayes d'élaborer, et au contraire, avec elle te travaille toi. C'est vraiment la fréquentation d'un auteur, c'est la fréquentation difficile, c'est une difficile fréquentation tous les jours de Dostoïevski.
Et que s'est-il passé dans ces années de maturation, de latence, comme disent les psychanalystes, entre le moment vous avez lu pour la première fois Dostoïevski et le moment où vous avez décidé en tant que metteur en scène à la fois d'écrire Le Grand Inquisiteur, de le mettre en scène, puis très récemment, un spectacle qui tourne beaucoup, le spectacle tout simplement Les Frères Karamazov. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des éléments plus exogènes, plus extérieurs à simplement ce que je vous raconte du rapport que j'ai intimement avec l'auteur et avec son écriture. Mais dans mon parcours plus personnel, sur le surgissement moderne du politique au milieu du 18e, à la fin du 18e, et après on a fait un travail chronologique de taupe, on a remonté. Donc j'en suis arrivé il y a 5-6 ans, à la fin du 19e. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à Dostoïevski, parce que lui-même, il avait il avait tourné autour de ces questions politiques qui m'intéressaient, de la formation des grandes philosophies politiques ou idéologies politiques qui ont forgé le moderne politique. Donc c'était pour moi aussi un chemin qui a mené de Marx à dresser les contradictions ou les saturations qui existent entre la pensée de Marx et la pensée de Dostoïevski, entre l'art de Dostoïevski et l'action de Karl Marx. Voilà, c'est quelque chose qui est très passionnant.
Alors, vous êtes un metteur en scène qui est fidèle à la lettre et qui est infidèle à la possibilité de traduire sur le plateau la totalité des œuvres de Dostoïevski. Il y a eu le Grand Inquisiteur, il y a eu les frères Karamazov, et à chaque fois, c'est une vision personnelle, même si elle est partagée par toute l'équipe et par un très abondant travail très profond de lecture de Dostoïevski, mais qui s'apparente finalement à une revisitation de l'œuvre de Dostoïevski aujourd'hui. Je veux dire par là qu'à un moment, dans votre mise en scène, on voit tout d'un coup Trump. Bah oui, Trump, il est Dostoïevski, avait peut-être prévu Trump, mais en tout cas, Trump est très présent dans la mise en scène de Dostoïevski par vous. Les frères Karamazov, c'est aussi très pop, très sexy, très érotico-maniaque. Pourquoi ? Non, mais dans le bon sens du terme.
Ah, mais je le prends toujours dans le bon sens.
Donc, Dostoïevski, aujourd'hui, Dostoïevski ultra-contemporain. Pourquoi ?
Mais en réalité, je crois que j'essaye de sentir l'esprit plutôt que la lettre. Donc, comme dit la Bible, alors voilà, alors il serait d'accord avec moi là, Dosto, la lettre tue, l'esprit vivifie. Parce que Dostoïevski, c'est un romancier. Je veux dire, c'est pas du tout un auteur de théâtre. Toutes les personnes qui... On entend souvent les gens dire à propos des dialogues qui sont contenus dans ces romans, qu'il suffit de les apprendre et de les jouer comme des scènes de théâtre pour que ça fasse théâtre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois au contraire que la théâtralisation ou l'adaptation pour le théâtre de l'écriture de Dostoïevski n'est pas du tout simple. Et donc je cherche plutôt à trouver en fait le chiffre théâtral de Dostoïevski. Pourquoi Dostoïevski m'a beaucoup, beaucoup intéressé pour le théâtre? Et d'ailleurs, à ce titre-là, il fait finalement partie d'une généalogie extrêmement proche de beaucoup, beaucoup d'auteurs de théâtre. C'est qu'il travaille le jeu des contraires. Il travaille le principe de réversibilité. Il travaille le livre des retournements. Ce qui est passionnant avec Dostoïevski, mais comme certains personnages de la Commedia dell'arte, comme la structure d'écriture de Bertolt Brecht, et de, en fait, une sorte d'essence du théâtre qui est ce que j'appelle le jeu des contraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas, dans l'écriture des personnages, de vérité, de personnalité véritablement fixe.
Il n'y a pas forcément une seule et unique vérité.
Il y a un mouvement qui est un mouvement, un jeu du diable, un jeu de bascule qui est que les identités, pour dire ce terme qui exprime une coagulation de l'être dans une forme, se renversent, elles se transforment. Dans l'œuvre de Dostoïevski, et ça pour le théâtre c'est extrêmement important, je vous donne des exemples. C'est finalement, si je vous prends un exemple très simple, c'est comme si je vous disais le pompier pyromane. C'est comme A est une victime, B est un bourreau. Sur le chemin de la potence, A devient B et B devient A. Dans les frères Karamazov que nous avons mis en scène, le plus rationnel finit le plus fou. Celui qui est le plus débauché est celui qui a sans doute le plus de noblesse. Celui qui croyait le plus est en fait pas du tout croyant. Celui qui ne croyait pas en fait se retrouve. Il y a un jeu des contraires et c'est un jeu mais comme enfantin. C'est un jeu c'est le diable dans l'enfance qui se maintient là et qui persévère dans des formes romanesques et dans des formes de théâtre. Si vous mettez une dramaturgie de 3 heures où par exemple et c'est arrivé dans la vie sociale et dans l'histoire. Je veux dire prenons des exemples extrêmes que Bond aurait pu utiliser pour faire qu'Edouard Bond, le dramaturge, ne renierait pas pour faire ses dramaturgies. Par exemple, un collabo français en juin 44 qui devient un résistant en septembre 44. Hein, parce qu'il faut bien trouver à se maintenir dans la société. Ou par exemple, ces personnes qui venaient au moment de l'antipsychiatrie, qui venaient à la Borde ou à Saint-Alban en tant que soignant et qui après quelques semaines était devenu patient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce principe de réversibilité qui est un principe éminemment théâtral, puisque d'ailleurs, les masques de théâtre, c'est un masque qui rit et un masque qui pleure. Et donc, ces identités à bascule, Dostoïevski, c'est comme un mécanicien de ça. Et moi, je m'intéresse à la cuisine du diable. Je m'intéresse pas à la prophétie de Dostoïevski sur les régimes politiques du XXe siècle. Je m'intéresse à la structure d'écriture. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de composer pour le théâtre des structures dramaturgiques pour faire que les acteurs puissent jouer. Ce qui m'intéresse au théâtre, c'est de conduire une action par le jeu. Ce n'est pas le discours, c'est de conduire une action par le jeu. C'est pour ça que moi, bon, ben c'est après, vous voyez, comme je parle et comme mon rythme cardiaque est rapide, et donc c'est vrai qu'on fait on joue vite, souvent les mises en scène. Mais je trouvais qu'il y a entre Dostoïevski et moi un rapport qui pouvait être construit sur ce principe de réversibilité.
Urgence Dostoïevski. Vous nous avez présenté ces deux mises en scène comme une nécessité de comprendre Dostoïevski, de comprendre des blocs de Dostoïevski. Urgence Dostoïevski parce que sans lui, on respire pas bien, on comprend pas bien ce qui nous arrive. Où elle est cette urgence aujourd'hui?
L'urgence est de briser les identités. C'est pas l'urgence actuelle, c'est toujours déjà là. C'est toujours déjà à refluidifier, à refaire circuler. Cet artiste-là, ce grand romancier-là, est comme un paquet d'autres, mais lui, à travers son geste d'écriture, ce qui est très très impressionnant, c'est que c'est une ivresse presque du retournement et de la circulation qui fait que la vérité d'un être ne tient pas à une affirmation fixe et éternelle. Et sa propre vie le montre. Je veux dire, c'est quelqu'un qui écrit. Il avait des crises d'épilepsie, notamment. Il prenait presque la forme du monde dans lequel il vivait, un monde en crise, un monde dont le principe dynamique est la crise. Le mode de production capitaliste ne fait que produire, avancer et produire par la crise. Et nous-mêmes, nous sommes des êtres en crise et nous trouvons parfois des stabilités, puis tout d'un coup, nous effondrons dans l'instabilité et ça rebouge. Et être dans cette œuvre-là et essayer de trouver la manière de la mettre en forme pour le théâtre, c'est essayer de trouver un équilibre entre des formes suffisamment coagulées pour qu'on puisse les saisir, qu'elles nous appartiennent et qu'on puisse jongler avec, parce que si c'est trop fluide, alors on peut pas les saisir. Et en même temps, il faut que ça garde une fluidité, la fluidité du diable qui court dans les êtres, qui les fait se trouer, qui les fait chuter et reprendre. Oui, c'est un équilibre à trouver. C'est un grand, grand artiste de l'équilibre instable.
C'est vrai que Dostoïevski, puisqu'il faut l'adapter, entre guillemets, puisqu'il n'a jamais écrit de théâtre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvain Creusevaux, et que d'autre part, il y a des blocs de monologues. Il y a des tirades qui sont immenses et qui constituent à elles toutes seules un monde. C'est une cohabitation de mondes complètement dissemblables, Dostoïevski. Et vous, en tant que metteur en scène, dans ce mouvement des âmes qui ne sont pas reliées entre elles, mais qui cohabitent dans le même instant du temps, vous réussissez à nous faire percevoir que ça se passe en même temps. Comment et pourquoi ?
Le roman permet de présenter des âmes au monde. Et Dostoïevski, il les présente hors de leur confusion et il réunit en tant que séparés des âmes qui sont confrontées. C'est très très puissant quand on lit en tant que lecteur, je veux dire. Le théâtre, quand on incarne cela, produit dans un premier temps la confusion des âmes. Parce que une âme mise dans un corps, vous parliez de blocs, de répliques, de pensées, de personnages, en tant qu'elles sont présentées en littérature, elles sont détachées de leur confusion, elles sont présentées au monde. On peut les lire. Et on peut lire l'une à côté de l'autre et comment leur frottement produit des étincelles et des conflits. C'est l'art du roman. Au théâtre, elles sont dans des corps. Et c'est l'affaire du théâtre. C'est-à-dire que tout ce qui est dans un corps, c'est le bordel. Et donc, dans un premier temps, les âmes redisparaissent dans la confusion de la difficulté qu'un corps a à s'exprimer et à jouer. Donc ce qui est génial quand on travaille de Dostoïevski au théâtre, c'est que la première chose que ça fait de Dostoïevski au théâtre, c'est sa disparition. Il disparaît dans les corps de la répétition. Et il faut retrouver l'esprit dostoïevskien, pas forcément sa lettre pour moi, enfin en tout cas c'est pas par ce biais-là que je passe, pour essayer de justement... On est d'abord en vrac avec Dostoïevski. Et il faut organiser ce vrac pour faire apparaître dans des formes pas trop empesées et en même temps assez vives et assez rapides pour continuer à sentir que ça fuit, que ça traverse, que ça circule. Donc il faut trouver les... Vous voyez, c'est comme quand on chercherait la bonne forme qui, en tant que forme, ne refroidirait pas la force qu'elle veut prendre. Et en même temps, il faut que la force, elle continue de circuler dans une forme. Donc il faut une forme assez fine. Moi, je préfère habiter la célérité. Pour ça, la vitesse. C'est dans la vitesse que je trouve la possibilité de voir que quelque chose passe, de pouvoir le saisir. Et en même temps, le fait de le saisir ne le tue pas. C'est pour ça qu'il faut que ça fuit. Ça, c'est comme ça que j'essaye de faire. Moi, j'ai opté de...
C'est dangereux de monter Dostoïevski et de vivre avec Dostoïevski? Parce que vous aussi, hein, Markowitz, il a vécu 10 ans, mais vous avez vécu 7 ans. Mmh. C'est pas mal.
Oui. Et oui, je pense que c'est dangereux, enfin, relativement au taux de sérieux de chaque personne. Je veux dire par là que c'est un grand farceur aussi. Si tu te conduis avec la farce dans l'œuvre de Dostoïevski, tu vas trouver la farce. Il y a des personnes qui se conduisent dans Dostoïevski avec beaucoup de sérieux et qui en parlent très sérieusement et qui passent à côté du fait que c'est quand même quelqu'un qui fait des crises, qui a les dents toutes jaunes, qui sue des dents, qui rigole, qui répète ce qu'il dit. Markowitz essaye de le rendre ça beaucoup plus que les traductions précédentes, qui lissait justement, qui est une langue qui se répète, qui est en vrac, qui est hachée, qui l'intelligentsia russe le trouvait paysan dans sa manière d'écrire. C'est pas une finesse d'écriture, c'est quelque chose qui essaye de la noirceur dont vous parlez des âmes, comme on dit, et tout ça. Je trouvais un peu comme Malevitch. C'est-à-dire quelque chose de post-dostoïevskien. Je me suis dit qu'il fallait mettre cette noirceur sur fond blanc. Je trouvais que tout était inversé avec la fin du 19e siècle, c'est-à-dire là où la pauvreté, en un an de société de consommation, ce qui est très étonnant, c'est le retournement de toutes les valeurs. La pauvreté de l'époque, ce n'est plus des espaces vides, mais au contraire des espaces extrêmement remplis, là où au 19e siècle, la bourgeoisie a des intérieurs extrêmement construits et qu'aujourd'hui, la bourgeoisie a des intérieurs épurés. Et de même que la fréquentation des milieux des villes, puisque l'œuvre de Dostoïevski se passe beaucoup dans les villes, dans les quartiers des gares, dans les quartiers des prostituées, des voleurs, dans Crime et Châtiment par exemple, dans L'Idiot, et dans Les Frères Karamazov, dans les tavernes, et poisseuses de boissons, toujours dans les ruelles noires, dans les ruelles sombres, dans lesquelles, ça aujourd'hui c'est tout à fait le contraire, on met de la musique classique pour empêcher les toxicos de se piquer dans les gares, toutes les ruelles sont éclairées au LED de diffusion, et donc au contraire, tout ce qui était noir avant est suréclairé aujourd'hui, et tout ce qui était suréclairé alors est beaucoup plus tamisé et sombre aujourd'hui. Donc tout est renversé. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de montrer ces corps et ce jeu des acteurs et tout ça sur fond blanc. Et aussi parce que j'ai toujours considéré, et ça avait à voir avec Karamazov, j'ai toujours imaginé que le carré noir sur fond blanc de Malevitch était en fait l'allégorie transgressive ou iconoclaste d'un peintre qui peint une icône, c'est-à-dire une icône orthodoxe, c'est-à-dire l'image du Christ qu'il l'a peint en noir et qu'il la met au coin. Et quand le carré noir sur fond blanc a été exposé pour la première fois, il était exactement à la même endroit que ce qu'on appelle le bel angle chez les orthodoxes, c'est-à-dire là où il y a l'icône avec la bougie et tout ça. Pour moi, c'était une manière iconoclaste et en même temps un dépassement historique de la position de Dostoïevski.
L'idiot, c'est vous ?
Non, Laure, pourquoi vous dites que c'est moi l'idiot ?
Parce que je trouve qu'il y a pas mal de caractérisations du personnage de l'idiot.
Dans le spectacle, je joue Ivan, donc c'est pas l'idiot, c'est les frères Karamazov. Et j'ai décidé de le faire pour jouer avec Arthur, mon grand ami avec qui j'ai fait la compagnie. Mais aussi Arthur Igual, mais aussi parce que je suis... Vous voyez, c'est ça. Alors là, vous m'avez, mais... Je ne sais pas. Combien on a de temps, Laure, là, pour réfléchir à cette
deux
question ?
Deux minutes.
Mishkine. Disons que c'est optimiste, quoi. Parce que Mishkine, j'ai toujours... La dimension messianique, l'agneau pascal, enfin, je veux dire, l'agneau divin, l'idiot, celui qui presque présente son corps pour qu'on le dévaste. C'est en ça qu'il porte une charge christique. Je le trouve magnifique, mais disons que moi, j'ai plutôt affaire avec le mal radical, quoi. Disons que ce que je sens qui chez moi est en danger, ce qui met toujours mon devenir en danger, c'est quand même une petite tendance, Laure, à vouloir connaître le bout de la nuit, quoi.
Ben merci. Merci infiniment, Sylvain Creusevaux. Le suspense continue parce qu'on ne sait pas si vous allez continuer avec Dosto.
Je ne sais pas non plus. Non, là, on tourne, hein, Laure, vous savez, on tournera et on retournera l'année prochaine. On continuera à jouer Le Grand Inquisiteur et Les Frères Karamazov. J'en suis fort heureux. Et puis, on va voir.
So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back.
You're so down, so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Or do you fantasize about the things you really wanna feel? I know you fantasize about the life you really wanna build. Know your eyes are watching God, baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was loving me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, couldn't let you regret me. Memorize about the time you spent when you first met me. I put my shit down heavy, couldn't let you forget me. Never let you forget me.
I wish I could take. Guess I love you and it's real. I went in too soon for the kill. But I really wanna feel, and I think I wanna be. I couldn't let you reject me. I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me. I wanted you to let me. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart.